Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Ça y est, maintenant, vous la tenez bien, l'info. Ça fait une bonne vingtaine de fois que je vous la répète. Et pour la dernière fois, je vous fais le coup de la métaphore approximative. Oui, le vendredi, c'est donc le jour où pop-pop-pop se transforme en pop-pop-podcast. Comme le jeune veau devient un taureau fougueux. Comme le petit pétard se métamorphose en feu d'artifice spectaculaire et grandiose. Comme un merle chantant se transforme en pâté après avoir survolé l'île de beauté. Ou enfin, comme le flipper des cafés enfumés et chaleureux d'antan devenu jeu vidéo à pratiquer en solo ou plus si affinité dans l'hygiène confite de son domicile. Attention, alerte rouge. La dernière image n'est pas tout à fait le fait du hasard puisque notre invité aujourd'hui est pour le moins spécialiste du dit jeu vidéo, comme je le fus moi à une lointaine époque du flipper traditionnel. Il s'appelle Erwan Cario, son podcast a pour titre Silence on joue et après une quinzaine de saisons, il s'apprête à enregistrer son 500e épisode au festival Ready Player qui se tiendra jusqu'à dimanche au Forum des Images à Paris. Papa Podcast, épisode 21, attrapez vos manettes, c'est parti.
France Inter, pop pop pop, Antoine de Caunes.
Et bonjour Erwan Cario.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Papa Podcast. Comment va la santé? C'est une question qui est devenue un peu obligée hein, par les temps qui courent, puisque si j'en crois votre podcast du 21 janvier dernier, donc il y a quoi, une quinzaine de jours, vous avez été rattrapé par le virus maudit, comme les petites billes à gros yeux le sont par le méchant Pac-Man.
C'est ça, on a un nombre de vies limité face au Covid. Ouais. Moi j'en ai encore quelques-unes, je suis passé à travers. Alors asymptomatique, j'ai eu un bon coup de bol.
Bon, vous êtes donc triplement bienvenue ici.
C'est ça.
Avant toute chose, est-ce que vous arrivez à prononcer le nom de cette émission?
Pop-pop-podcast.
Ah, moi je dis monsieur là. Non, sans blague, là je dis monsieur.
Sur le programme de Télérama, c'est marqué Pop-podcast.
Oui, mais ils n'ont toujours pas compris. Vous savez, c'est un vieux journal. ça n'a aucune importance. Erwan Cario, les jeux vidéo, c'est une culture, une industrie plus importante que celle du cinéma aujourd'hui et un monde relativement nouveau qui existe avec son vocabulaire nouveau lui aussi. Apprenez-moi un mot, un seul, que je pourrais glisser dans une conversation pour avoir l'air de m'y connaître.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait parler de pro-gaming.
Pro-gaming, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mmh. Ou de e-sport.
E-sport, je sais quand même ce que c'est. Non, mais pro-gaming, ça veut dire qu'il y a des anti-gaming et il y a des pro-gaming.
Non, il y a des professionnels du gaming.
Oui. Ah, je serais un pro du gaming.
Voilà, c'est le pro-gaming, c'est toute cette scène de gens qui sont très très forts avec leurs souris et leurs petits doigts sur des claviers et qui arrivent à faire un nombre de frappes et de touches précises absolument super luminique et voilà,
c'est
on
pas
peut pas arriver à leur hauteur.
C'est pas ceux qu'on appelle les PGM?
Si, bah, alors.
Vous êtes déjà au courant. Oh, je me suis renseigné. Mais évidemment, j'ai un peu préparé cette émission. Bon, Erwan, vous êtes donc le créateur de Silence on joue, le podcast jeux vidéo de Libération, qui en est à sa 15e saison. Erwan, je vais jouer carte sur table à un niveau jeux vidéo si je vous dis que je suis resté là. C'est-à-dire Pong, hein. Est-ce que vous pensez que je suis vraiment un cas désespéré? Répondez-moi franchement.
Non. De toute façon, il est toujours possible de rattraper son retard.
Ouais.
Alors, en tout cas, de reprendre le chemin du jeu vidéo là où il en est. C'est vrai que rattraper 50 ans d'histoire, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais il y a encore des jeux vidéo qui sortent aujourd'hui sur votre téléphone portable, sur les consoles, sur les ordinateurs. Et on peut toujours s'y mettre. Il y a vraiment aucune barrière à l'entrée sur la majorité des jeux aujourd'hui.
Oui, parce que la différence avec il y a 50 ans, c'est que maintenant, le jeu vidéo est omniprésent. Il est partout. Il est sur les téléphones, sur les tablettes, sur les écrans, sur les ordis. Enfin, absolument partout. On est
partout,
d'accord.
Il y a un écran, il y a des jeux vidéo. C'est la règle totale. En fait, c'est à partir du moment... Il est né avec la télévision, avec cet écran qui est arrivé dans les foyers. Et il y a eu une première réflexion dès les années 50. Tiens, il y a des télévisions, on peut faire quelque chose d'interactif. Et après, depuis, dès qu'il y a eu un nouvel écran, il y a eu des jeux très très vite, jusqu'au téléphone aujourd'hui.
Bon, l'heure que nous allons passer ensemble peut-elle transformer le néophyte passionné que je suis en passionné des jeux vidéo?
J'espère. C'est le but.
Est-ce que c'est votre but aujourd'hui? C'est votre mission?
c'est ma mission.
Est-ce que le petit pousset que je suis ne risque pas d'être perdu dans cette jungle?
Je vais faire, comme je fais chaque semaine, c'est essayer d'être compréhensible devant un micro quand on parle de jeux vidéo. Même si on est spécialiste, on peut aussi se faire comprendre de tout le monde.
Bon, j'ai confiance, Erwan. Après tout, vous êtes le spécialiste incontesté. Vous avez une formation d'ingénieur et aussi notamment l'auteur d'une enquête sur la face sombre des écoles de jeux vidéo. Car oui, il existe des écoles de jeux vidéo et j'espère que mes fils cadets Canet et Junior n'écoutent pas cette émission.
Il en existe, alors pas toutes ne sont pas, ouais. ont pas des problèmes comme nous l'avons montré l'année dernière dans Libération. Et c'est des formations pointues. Après, il y en a beaucoup d'écoles privées. Il faut faire un choix, il faut vraiment être attentif de là où on envoie ses enfants.
Tout ça, on le trouve évidemment dans vos podcasts et vos enquêtes dans le journal Libération, hein, auquel je renvoie directement. Bon, on va voir toutes ces histoires-là ensemble et avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après un You and Me. C'est un morceau du groupe de rock alternatif Algi. Alt-J, c'était le morceau You and Me, c'est un morceau que nous avons écouté, You and Me, Erwan Cario, pendant que Charline était en train de faire son entrée dans le studio. Bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, je sais que vous êtes une experte S-jeux vidéo, des Picards en particulier. Quel est votre jeu préféré?
Dans les derniers que j'ai faits, mais ça date un peu, c'était Zelda.
Ah, ouais, Zelda, c'est quand même, on se rapproche, non?
C'est un des plus grands jeux de l'histoire, par ailleurs. Hein,
entre Pong et aujourd'hui, il y a Zelda, ouais. On est d'accord?
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Mais il y en a encore quelques autres après, ouais. C'est ça qui est bien.
Et c'est en tant qu'experte, donc, que vous avez écouté le podcast de notre invité Erwan.
Oui, il y a de l'actu, qu'elle soit stratégie, business, des chroniques de jeux qui sont limpides, quoique très techniques et circonstanciées. C'est bien pratique pour les amateurs un peu largués, dont je fais partie, je le confesse. Et il y a même des jeux de société, donc silence, on joue, mais on joue à tout, quel que soit le jeu.
C'est ça, quelquefois le jeu. Et les jeux de société, c'est vraiment une fierté. C'est-à-dire que c'est depuis le début, depuis le troisième épisode, on avait une collaboration avec Monsieur Fall, qui était le spécialiste français, vraiment. Il a, au bout de quelques années, lui, il a arrêté un peu. Et puis, on a retrouvé un autre chroniqueur qui est très volontaire. Et du coup, c'est aussi une vraie fierté de parler de tous les jeux et de ces jeux qu'on fait autour d'une table, conviviaux et tout ça. Ça n'a rien à voir, mais ça intéresse énormément les gens.
À commencer par les jeux de plateforme, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les jeux de société traditionnels et les jeux vidéo?
Alors les jeux de plateforme, c'est là où on saute avec un petit bonhomme d'une plateforme à une autre, comme Mario. C'est beaucoup plus en solitaire, les jeux de plateforme, pour le coup.
Bah ça commence. Ok, merci. Silence, on joue, ça donne ça.
Donc, not for broadcast, hein, écoute Marius, explique-nous c'est quoi la proposition, comment ça se passe?
Ouais, alors moi j'y avais pas joué à l'époque, mais je me souviens d'être tenté par la par l'idée de départ du jeu qui est super séduisante, c'est cette idée de placer le joueur dans une régie télé et de le laisser gérer le chaos total que peut constituer 6 écrans en simultané. Rien que ce petit principe-là qui occupe tout le début du jeu, où clairement les développeurs s'amusent à nous mettre des bâtons dans les roues toutes les 45 secondes en rajoutant un truc qui vient de faire dérailler, qui vient...
Sachant, juste on précise pour l'ambiance, je te redonne la parole tout de suite, c'est de la vraie vidéo, c'est de la vraie télé.
Oui, c'est de la FMV, ouais.
C'est de la FMV, donc ça rajoute aussi au réalisme, c'est-à-dire l'interface, c'est une interface de jeu vidéo, la régie en elle-même, mais les images qu'on gère, c'est de la FMV.
Not for Broadcast, un simulateur de propagande en FMV, full motion vidéo si je ne m'abuse. Antoine voit flou, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Non, j'ai mes lunettes, je vois très bien. Expliquez-nous quand même.
C'est quelque chose qui existe depuis les tout débuts du jeu vidéo, c'est vrai que, et surtout au début du jeu vidéo, parce que c'était compliqué de faire des images réalistes avec quelques pixels, voire quelques polygones, donc en fait, il y avait des acteurs filmés. Et donc, c'est ce qu'on appelait les jeux vidéo en full motion vidéo. Alors aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est de la vraie vidéo bien filmée avec des vrais acteurs, des bons acteurs. Généralement, c'était les créateurs du jeu qui jouaient dans les premiers jeux, donc c'était pas forcément bien joué. Mais là maintenant, il y a plein de jeux avec des images, des vraies images.
Le jeu en question est une dystopie satirique. Oui, comme dans un film, comme dans un livre, comme dans une série, l'occasion de rappeler que le jeu vidéo est le premier marché culturel français. Est-ce que c'est une donnée qu'il est toujours bon de marteler ou ça y est, c'est intégré, le jeu vidéo en 2022 est traité avec le sérieux qu'on lui doit ?
Pas tout à fait. Après, c'est pas forcément utile de marteler et de vouloir faire du jeu vidéo le leader, celui qui va arriver en haut du podium de toutes les industries culturelles, parce que alors en plus, on joue avec les chiffres. Le jeu vidéo aime bien se mettre en avant parce qu'il y a eu toujours un complexe d'infériorité vis-à-vis de la grande culture d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Le jeu vidéo, il est installé de toute façon et tout le monde joue, enfin presque tout le monde. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour peu qu'on ait touché à une manette, on sait que le jeu vidéo, ce n'est pas que de tuer des gens, ce n'est pas que de sauter sur des plateformes et sauver la princesse, c'est aussi des histoires complexes, des dystopies, des discours politiques et des jeux qui savent jouer sur les émotions.
Justement, Erwan Cario, je le disais, c'est votre 15e saison de Silence on joue, ce qui veut dire que vous avez commencé votre podcast quand certains faisaient ça.
Pour prendre soin de votre forme en famille et entre amis, WeFit sur Wii.
J'imagine que c'est pas le fait de monter sur un plateau qui vous a donné envie de faire un podcast.
Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. En fait, à Libération, c'était en 2007, Libération avait fait, avait essayé, s'était inspiré d'Arte Radio à l'époque, qui existait depuis déjà quelques années, pour proposer du contenu audio en ligne. Et on avait installé un vrai beau studio dans les locaux de Libération. Et j'avoue que moi, je me suis un peu jeté dessus parce que il y a cette attirance pour un nouveau format. Ouais. Et puis, il y avait ce côté podcast, alors qu'il était vraiment balbutiant à l'époque, hein. On est en 2007, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Mais il y avait ce côté un peu possible où les barrières techniques de diffusion de programmes audio sont abolies. On n'a plus besoin d'avoir des grandes structures comme ici. Et pour le coup, voilà, on a. Et c'était expérimental surtout. Il n'y avait pas de pression.
Vous savez, c'est une structure assez modeste, hein, la maison ronde de Radio France. Si vous voyez ma maison de campagne. Bon, allez-y, Charlie, vous en prie.
Silence on joue est donc un podcast libé. Et pour le journal, vous ne traitez pas le jeu vidéo que dans son aspect ludique, puisque vous êtes aussi, Antoine le disait, l'auteur entre autres de deux enquêtes sur la face sombre du jeu vidéo, culture sexiste chez Ubisoft et dans les écoles de jeux vidéo. Vous traitez votre sujet dans sa globalité. Est-ce que les deux pans de l'industrie sont compliqués à traiter de front? J'entends par là, les labels ne doivent pas être forcément ravis de ce genre d'enquête et la communauté jeux vidéo peut parfois avoir des réactions épidermiques.
Alors la communauté du jeu vidéo est parfois un problème, hein, on va pas se mentir, les gamers sont une communauté qui a été très longtemps assez toxique, assez problématique, notamment sur les affaires de sexisme et ce genre de choses. Il y a eu quand même un rejet des femmes historique, hein, dans le jeu vidéo au milieu des années 90, et petit à petit on lutte contre ça, donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo, c'est pas parce qu'on adore ça, c'est pas parce qu'on aime ça qu'il faut pas regarder tout l'ensemble avec un peu de recul. Et c'est vrai que nous, de fait, on connaissait l'industrie avec Marius Chapuis, donc qui a écrit ses enquêtes avec moi. On connaissait l'industrie et qui est dans Silence on joue par ailleurs. Et donc, ça nous a permis d'aborder justement de front ces sujets-là parce qu'on connaissait aussi l'historique. On sait les problèmes qui sont liés aux jeux vidéo, notamment en termes de sexisme. Et c'est vrai que des entreprises de jeux vidéo où il y a 80% d'hommes et 20% de femmes, c'est le terreau un peu idéal pour que arrive ce genre de choses.
Mais les éditeurs. Parce que vous devez, par la suite, pour l'actu, avoir à traiter certains de leurs jeux. Est-ce que ça vous a posé des soucis ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que il faut aussi que la relation... On peut pas être blacklisté, par exemple, par Ubisoft parce qu'on a fait des enquêtes pour eux. Ce serait un peu ridicule. Et je trouve que même de leur point de vue, ce serait assez illogique. C'est parce que ce sera une sorte d'aveu de, même pas de culpabilité, mais de mauvais comportement vis-à-vis de la presse.
Erwan Cario, dans ce podcast Silence on joue, avec vos chroniqueurs Patrick Hélio, Marius Chapuis et Corentin Benoît Gonin, vous débriefez l'univers des jeux vidéo chaque vendredi. Être payé pour jouer, c'est un peu le rêve de tous les enfants. Non ?
Ouais, c'est ce que. oui, je peux pas dire le contraire. Dire même si ce n'était pas du tout une ambition pour moi au départ, je pensais même pas que ça existait. En fait, je savais qu'il y avait des gens qui écrivaient sur le jeu vidéo et tout ça. Mais non, c'est vrai que pour le coup, c'est un luxe, c'est un luxe. Et en fait, le luxe aujourd'hui, je crois que c'est d'avoir comme moi presque 50 ans et de pouvoir continuer à le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, notamment dans la presse jeux vidéo, où on se rend compte qu'il y a très peu de journalistes après 35 ans, parce que c'est une presse qui paye très mal. Ouais. Et j'ai encore un de mes amis qui a arrêté la semaine dernière parce que on arrive à 35 ans, si on peut pas avoir plus qu'un petit studio parce que notre salaire le permet pas, on arrête, on passe à autre chose. Et c'est un problème pour le jeu vidéo, c'est un problème pour le jeu vidéo de ne pas avoir cette maturité en face. Et donc moi je m'estime très très chanceux de pouvoir continuer à le faire parce que je suis journaliste à Libération. Et j'essaye de le faire le plus sérieusement possible.
Mais jouer, s'est-il parfois avéré être un sacerdoce quand le jeu est mauvais, ce qui peut arriver? Est-ce que pour faire une bonne revue on s'impose de tout terminer?
Non, alors pas tout terminer, ça c'est pas possible. Ouais, parce que contrairement, je dis pas que les critiques ciné sont des flemmards.
Contrairement aux critiques de théâtre.
Non, mais c'est vrai qu'un film, c'est 2 heures. Après, il faut y réfléchir, il faut avoir
bien
toute
sûr.
La culture qu'il y a derrière.
Non, mais c'est chronophage, le jeu vidéo.
Et le jeu vidéo, il y a des jeux. Là, il y a un jeu qui va sortir où les créateurs sont très, très sûrs d'eux. Ils ont dit notre jeu est super, il va falloir 500 heures pour le terminer. Non, c'est pas possible. Et donc après, il faut y jouer. Il faut c'est vrai que c'est parfois un sacerdoce parce que jouer à 2, 3, 4 jeux par semaine, qui sont pas tous excellents, il faut se les taper. Mais il faut y jouer suffisamment pour pouvoir en parler. Alors ça peut être 1 heure, ça peut être 10 heures, ça peut être 15 heures. Cette semaine, je vais parler de Oli Oli, qui est un jeu de skate. Je suis tombé dedans. J'y ai joué 6 ou 7 heures déjà. Donc
500 heures, c'est le temps qu'il faut pour lire un Guerre et Paix, non?
Oui, en moyenne, ouais. pour les lecteurs qui vont pas...
Ils vont pas trop lentement.
Ouais.
Erwan, est-ce que quand vous jouez pour le plaisir, vous avez l'impression de travailler ?
Non.
C'est une bonne question aussi.
Non, oui, c'est une excellente question, mais alors des fois je culpabilise de jouer pour le plaisir. C'est une circonstance un peu spéciale, c'est-à-dire que des fois je peux pas m'empêcher de jouer à certains jeux. Il y a un jeu où j'ai énormément joué qui s'appelle Hades ces 2 dernières années, et en fait je culpabilise presque de jouer à mon jeu de cœur parce que je pourrais jouer à mes jeux de travail à côté.
Très bien. Pour faire une revue de jeux vidéo, on parlait des critiques de cinéma. Est-ce que, pour le coup, le jeu vidéo, une matière par essence mouvante, parce qu'interactive, est-ce qu'il y a une grille critique ?
Il y en a peu. C'est quelque chose où on avance en marchant. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Je vais pas dire que les débuts de Silence on joue. Alors ça fait plus que ça parce que Libération traite du jeu vidéo depuis le milieu des années 90.
Séguret s'en occupait.
Olivier Séguret avec cette une sur Lara Croft en juillet 97 quand même. On était assez précurseur sur le sujet. Donc on a réussi à construire une sorte d'outil de grille critique sur le jeu vidéo. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui les sites spécialisés, par exemple, ont une approche du jeu vidéo qui est entre la critique et le test produit, avec des notes, avec les graphismes 12 sur 20, la musique 14 sur 20 et ce genre de choses, comme si on parlait d'une voiture. Nous, on essaye d'avoir un peu plus de recul sur le média.
Le podcast Mise à l'honneur aujourd'hui dans Pop Podcast, c'est donc Silence on tourne avec son animateur et créateur Erwan Cario. Nous allons reprendre cette conversation dans quelques instants. D'ailleurs, silence on joue. On joue vraiment en silence?
On demande du silence pour jouer. C'est différent. Nous, on l'est pas.
Ça dépend chez qui.
J'entends des grands cris quand ça joue chez moi. Bon, non, c'est l'heure maintenant de passer au podcast, puisque chaque vendredi, Charline Roux traque la pop culture dans les podcasts, et ça s'appelle le podcast, je me répète, jungle.
Le podcast.
Le podcast.
Avec un jungle tellement rentabilisé qu'il faudrait penser à le changer, un de ces quatre.
Oui, oh non, je pense qu'on le faire perdurer, il est bien. Il n'aura échappé à personne que l'élection présidentielle approche à grands pas. Voici une série documentaire qui nous permet d'explorer les coulisses du monde politique différemment. Les ombres, c'est le titre. Un podcast qui fait entendre la voix de ceux que normalement on n'entend pas, soit les collaborateurs politiques, chargés de com, plumes, chefs de cabinet, conseillers, ceux qui travaillent dans l'anonymat le plus complet. Un programme écrit par Mao Chaudouet-Delmas, ancienne analyste et conseillère politique, un programme qui débute ainsi.
Pénélope Fillon, Aquilino Morel, Alexandre Benalla, Alexis Kohler, quand on entend parler des collaboratrices et des collaborateurs politiques, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Trop payés par nos impôts, trop puissants sans avoir été élus, symboles du népotisme ou de la technocratie, ils alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Ce métier, je l'ai moi-même exercé. Sans profiter d'un réseau familial qui évolue loin des arcanes politiques, sans en tirer d'avantages personnels, parfois même sans être payé. Et beaucoup, beaucoup d'autres assistants politiques, des milliers, sont comme moi. Ils travaillent en région, à Paris, à Bruxelles, auprès d'une députée, d'une commissaire européenne, d'un ministre, d'une maire, d'un président de région. Ils sont à la conquête du pouvoir ou déjà dans l'exercice de l'État. Le cœur de leur métier, c'est avant tout leur engagement.
Mao Chaudouet-Delmas a recueilli leurs témoignages et expériences. En exergue de ce premier épisode, on peut lire « Collaborateur politique, ça devient une identité alors que c'est un travail. Il est donc question d'engagement, de pression, voire d'aliénation. » C'est un podcast Slate en 6 épisodes à retrouver chaque mardi.
Les fruits et légumes se racontent par les voix de Laetitia Doche et de Pierre Deladonchamp et se font ensuite cuisiner par des chefs. Charline, vous avez changé votre posologie ?
Oui, mais c'est un autre sujet. Non, même pas. C'est dans Petites Graines, un programme écrit par Béatrice Fontanelle dans lequel Pierre Deladonchamp est un brocoli italien, un potiron joufflu, un kiwi intrépide, et Laetitia Doche, une carotte élégante, une clémentine solaire ou encore une pomme aventurière.
Au printemps, tout d'abord, le climat avait été propice, aucune gelée, aucune chute de grêle dévastatrice sur la campagne, juste quelques zéphyrs capricieux qui rôdaient autour de mon arbre, un vieux pommier un peu tordu, au tronc couvert de mousse et de lichen. Mais quelle métamorphose au temps de sa floraison!
Les comédiens racontent donc la trajectoire de ces fruits et légumes et dans un épisode complémentaire, les chefs Chloé Charles et Romain Médère les cuisinent. C'est parti pour une pizza aux pommes et aux noix.
Pour 4 personnes, il te faut 6 belles pommes bio, car tu vas manger la peau, 3 cuillères à soupe de miel, un yaourt nature, une boule de pâte à pizza ou une pâte faite maison, 10 poignées de cerneaux de noix, environ 200 grammes, et un petit verre de lait chaud. Tous tes ingrédients sont prêts, alors tu peux commencer.
Et Petites Graines, c'est un programme saisonnier Deezer Originals.
Enfin, se raconter pour ne plus être invisibilisé, c'est l'ambition du podcast Être un homme.
À l'initiative de Michel-Ange Vinti qui a recueilli des histoires intimes de garçons homosexuels dans lesquelles il est question d'amour, de désir, de honte, d'emprise de la famille, du poids de la religion et de la culture. Présentation du premier d'entre eux.
Gabriel ne s'est pas toujours prénommé Gabriel. Il n'y a pas si longtemps, il a choisi de changer de prénom auprès de l'officier de l'état civil. La démarche radicale peut être prise comme une insulte aux parents divins. Lui, Gabriel, la voit comme un respect envers lui-même pour se construire. Mais alors, est-ce que choisir, c'est renoncer à qui on était ou à qui on devait être ?
Pour écouter le témoignage de Gabriel et ceux des autres garçons qui se livrent à la première personne, c'est dans Être un homme, produit par le studio Balado et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Merci Charline. Erwan Cario, vous restez avec nous dans la suite de Pop Up Podcast. Nous continuerons de parler de votre podcast. Ce sera juste après un classique rocksteady, Aretha Franklin.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Silence en joue, Erwan Cario, bonjour.
Silence en joue, hein. Voilà, on a tout compris là.
Et bien oui.
C'est un jeu calme, silencieux. Erwan Cario, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la 15e saison de Silence en joue, ce podcast qui va fêter son 500e épisode dimanche, dans quelques jours. Et dans ce podcast, vous revenez sur les actus de la semaine dans le monde des jeux vidéo. Vous critiquez ensuite les sorties à retenir, et puis vous parlez de jeux de société. Comment les jeux de société se sont retrouvés mêlés à cette affaire finalement?
Bah, déjà, il y a un point commun, on joue. Mm-hmm. Hein, donc, on va pas en dire que la thématique est respectée.
Ouais, pour y mettre le PMU, alors.
Non. Faut pas déconner. Et surtout, il y a une vraie culture aussi. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a une culture du jeu vidéo et il y a une culture du jeu de société qui est aussi importante. Il y a un nombre faramineux de jeux de société qui sortent chaque semaine aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'il y a un, là aussi, on parlait tout à l'heure de l'approche critique du jeu de société, elle existe aussi. Et c'est vrai que quand nous, on a eu cette possibilité de faire un partenariat d'abord avec le site tricktrack.net et ensuite avec un autre chroniqueur très expérimenté et qui connaît très très bien ce milieu, pour moi je trouve que journalistiquement il y a quelque chose de passionnant. C'est-à-dire que moi je joue aux jeux de société mais je n'en suis pas du tout un spécialiste. C'est comme si, par rapport aux jeux vidéo, comme si je jouais à quelques jeux vidéo par an, quoi. C'est un peu ça, le même truc. Donc je suis incapable d'en parler en termes connaisseur. Mais c'est vrai qu'avoir cet angle d'approche de conseils et de pertinence sur le jeu de société, moi je trouve ça à chaque fois passionnant. Ouais.
Est-ce que vous pourriez imaginer de faire un mash-up des deux, par exemple de parler de jeux vidéo en jouant des jeux de société? Un exemple, un débriefé Mario Kart tout en faisant un Twister?
Compliqué. J'ai pas mentir, ce serait compliqué.
J'ai jamais essayé.
Ouais. Non, j'ai jamais essayé.
Tout est compliqué avec le Twister. Hein. Ouais, de toute façon. Je profite de la présence d'un expert, le New York Times, qui vient d'acheter pour quelques menus millions de dollars le jeu Wordle, un jeu en ligne devenu phénomène. Ça vous inspire quoi?
Bah, c'est une très bonne acquisition pour le New York Times, je trouve. Non, et puis je trouve cette histoire, parce que le succès de Wordle est assez passionnant, et de ses dérivés français, on a vu Sutom et quelques autres.
C'est un jeu où il faut trouver un mot, je précise.
Voilà, en quelques coups, c'est une sorte de pendu. Et je trouve que le principe est sympa. Je trouve que c'est cette idée de socialiser un peu ce jeu un peu basique a très bien fonctionné. Et je suis plutôt content que ce soit le New York Times plutôt qu'une autre boîte lambda qui achète ça.
Alors, j'imagine que la question est vaste, mais ces jeux sur téléphone, qu'est-ce qu'ils ont changé à l'industrie du jeu vidéo? Et d'ailleurs, est-ce qu'on trouve des jeux sur votre téléphone à vous?
Ah, on en trouve. Non, mais bien sûr. Bien sûr, on en trouve. Alors, ils ont...
Vous êtes un joueur compulsif.
Ah, complètement. Oui, j'assume. Hein. Je suis obligé d'assumer. Mais alors, ils ont fait évoluer l'industrie du jeu vidéo. Ils ont ramené énormément d'argent, parce que c'est vraiment des trucs qui fonctionnent très bien. Après, ils ont étendu le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé le jeu vidéo qui existait auparavant, celui des consoles, celui des ordinateurs et tout ça. Ils ont créé de nouveaux types de jeux. Des jeux pas forcément passionnants parfois, qui sont plutôt faits aussi où il faut ouvrir des coffres, gagner, payer de l'argent, parce que c'est des free-to-play, donc c'est des jeux apparemment gratuits, mais sur lesquels on demande de payer des petites sommes pour gagner des diamants en plus et ce genre de choses. Ça semble un peu idiot, mais ça fonctionne et ça rapporte des milliards. Ça a étendu l'univers du jeu vidéo. Le jeu vidéo central, celui des consoles, des ordinateurs, est resté à évoluer à sa vitesse et ça a amené d'autres types de jeux.
Erwan, pardonnez-moi si j'énonce un poncif, mais j'imagine que la communauté, enfin la plus grande partie de la communauté des joueurs est constituée de jeunes gens, de la nouvelle génération, enfin les générations arrivées avec les années 80, 90 et les jeux. Comment est-ce que vous faites pour essayer de séduire les seniors? C'est difficile d'un point de vue de marketerie.
Alors déjà, c'est pas à nous de les séduire. c'est les gens qui font les jeux. Ça dépend. Moi, je sais que ce qui est étonnant, c'est quand on demande à nos auditrices et à nos auditeurs leur âge et ce genre de choses, on s'est rendu compte que nous, notre audience, elle est entre 30 et 50 ans. Mm-hmm. C'est une audience assez originale quand on parle de jeux vidéo. Et comme vous le dites, on a toujours ce préjugé de dire les jeux vidéo, c'est avant 25 ans, c'est quand on a que ça à faire de sa vie et tout ça. Et qu'après, on grandit, donc on arrête de jouer et les choses sérieuses commencent. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que il y a des gens, le jeu vidéo, il a 50 ans aujourd'hui, il est né en 72 avec Pong, dont on on a entendu quelques sons tout à l'heure. Bah, aujourd'hui, les premiers joueurs de jeux vidéo, ils commencent à avoir 50 ans. Et peut-être que les seniors, peut-être ce sera naturellement dans 10 ans, ils vont être obligés d'installer dans 10 ou 15 ans des salles de jeux vidéo dans les EHPAD.
Voilà, tenez-vous-le pour dit, ami du département marqueterie.
Le nombre de joueurs a encore augmenté avec le confinement. 53% de joueurs contre 44% en 2018, d'après une étude du Crédoc. Cette progression a essentiellement bénéficié aux femmes, qui sont aujourd'hui 51% à jouer, quand elles n'étaient que 39% en 2018. Les hommes sont 55%, c'est-à-dire on est presque à la parité. Pourquoi ? Alors, même si ça change un peu, on avait d'ailleurs reçu Kayane ici à ce sujet, on a toujours l'impression que les femmes sont sous-représentées quand il s'agit de parler de jeux vidéo, ou même dans leur représentation dans les 10 jeux, en fait.
Alors, il y a des raisons historiques. Il y a des raisons historiques, notamment au début des années 90, où en fait, il y a la figure du gamer qui a été inventée, qui a été marketée et par l'industrie et par les journaux spécialisés à l'époque. Et le gamer était forcément un homme, un jeune homme de 15-20 ans. Et en fait, on en a fait une culture, la culture des gamers. Et en fait, ça a créé une sorte de barrière à l'entrée pour les femmes qui n'étaient pas représentées ni dans les jeux, ni dans la culture elle-même. C'est-à-dire
ou différemment dans les jeux, en tout cas. Extrait de manière extrêmement sexuée et pas forcément...
Exactement. Et c'est vrai que depuis les années 2010, ça commence à évoluer. Il y a eu des grands scandales. Un scandale qui s'appelle le Gamergate, où des créatrices de jeux vidéo et des journalistes ont été harcelées sur les réseaux sociaux, menacées de mort, de viol, etc. Et ça a vraiment... basculer un peu l'angle et c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est quelque chose de vraiment moi que j'adore, c'est il y a de plus en plus d'héroïnes de jeux vidéo et pratiquement tous les grands jeux qui sortent ces dernières années ont des héroïnes de jeux vidéo.
On le disait, les gamers sont très réactifs. Quel genre de retour est-ce que vous avez des auditeurs du podcast?
Des très bons, pour le coup on a des très bons retours. On a ouvert un serveur Discord il y a quelques semaines en novembre et là il y a 1700 personnes qui échangent en ce moment tous les jours avec une érudition absolument dingue. Et il faut être très modeste quand on parle de jeux vidéo parce que les auditeurs s'y connaissent toujours beaucoup mieux que nous.
Dans Silence on joue, vous passez des jeux à la moulinette comme par exemple Vampire Survivors, Serious Sam Diablo 2, Midnight Scenes ou encore Psychonauts 2. Vous avez réussi d'ailleurs à finir Psychonauts 2 parce que moi j'ai décroché au 48e niveau.
Non, je l'ai pas fini.
Je sais pas ce qui vous fait rire, Juan.
Rien, pardon. Et c'est quoi le niveau préféré?
J'ai beaucoup aimé le 7.
Le 2, ouais, le 2, vous étiez à fond.
Ah, le 2, mais après, quand je suis parvenu au 7, le 7 m'a vraiment conquis.
Ceci dit, je conseille évidemment Psychonauts 2, qui est un très, très, très bon jeu.
Voilà, c'est ce que je voulais entendre.
Le dernier jeu qui vous est rendu accro? Et le tout premier jeu qui vous est rendu accro?
Alors, le dernier jeu qui m'est rendu totalement accro, ça s'appelle Hades. C'est un jeu fascinant. C'est un jeu sous des apparences de jeu de combat où on combat des monstres en tant que fils du dieu des morts, le fils du grec Zagreus. C'est un soap-opéra romantique avec des histoires d'amour, des histoires de famille, etc. Donc, c'est vraiment absolument génial. Et le premier jeu qui m'est rendu accro, je pense que c'était Arkanoid. C'était il y a très très longtemps, c'était un casse-brique. Et j'en rêvais la nuit.
Erwan Cario, je le disais en intro d'émission, je touche un peu ma bille niveau jeux vidéo et surtout niveau podcast de jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Je pense notamment à Gamer & Geek, Vertical Gaming, Press Start, Label & Gamer ou encore Fin du Game. Voilà un petit name dropping qui donne l'impression que je sais de quoi je parle.
je pense qu'on se complète tous. Vous avez cité La Fin du Game, qui est un podcast absolument excellent, où en fait ils reviennent d'une manière très très spécialiste sur un jeu qu'ils ont fini. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années et ils le parcourent pratiquement en intégralité dans le podcast. Et c'est une proposition qui est vraiment originale et qui est très très intéressante. Nous, on est hebdomadaire déjà. On suit l'actualité. Puis il y a cette expérience de 15 ans qui change un peu peut-être les choses, mais je trouve que ça se complète. Et puis une de mes vraies fiertés en 15 ans, c'est aussi d'avoir inspiré. Il y a plein d'auditeurs qui ont créé leur propre podcast. C'est vrai que c'est quelque chose qui est spécifique à ce secteur du podcast, c'est qu'il faut pas grand chose pour lancer un podcast. Et puis il y a plein de gens en nous écoutant qui se sont dit mais pourquoi pas nous? Et ça, moi, c'est pas des concurrents, c'est juste des gens à côté. Et plus on est de fous. Plus on joue.
Autant de raisons donc de préférer Silence on joue à tous ses concurrents et voilà que je viens de me mettre à dos une bonne masse de créateurs de podcasts. Bon, Silence on joue, c'est un podcast libé, c'est signé Erwan Cario. Pop break dans ce numéro de Pop Up Podcast, c'est l'heure des pop news et des pop news spéciales.
Deep Note, c'est un formidable podcast dans lequel la fabrication d'un album est décortiquée en compagnie de l'artiste à qui on le doit et en compagnie de son producteur. Le tout est animé par le DJ et animateur britannique John Kennedy. Et dans cet épisode, la songwriter australienne Courtney Barnett et sa productrice Stella Mosgawa racontent la création de l'album Things Take Time, Take Time, des mots à l'appui.
Yeah, so definitely more melody based than lyrical based.
Yeah. Same chords though.
Yeah.
There's the B section. The end.
Yeah, so a lot of my songs do start like that. Like I kind of am mucking around on the guitar and I find a melody that I like and maybe one line or word or phrase. That one seemed to have no words. That's a lot of mumbling.
Oui, Courtney Barnett chante aussi en yaourt. La suite, c'est dans Type Notes et c'est dispo sur toutes les applis. Un podcast monomaniaque reprend du service, un podcast au générique hollywoodien et flippant et dont le titre vous en dira plus sur son sujet.
This is The Talking Dead, a podcast dedicated to the AMC TV show The Walking Dead.
The Talking Dead, un programme intégralement dédié aux zombies et aux survivants, puisque la seconde partie de la 11e et dernière saison de The Walking Dead vient de dévoiler sa bande-annonce. Voici de quoi alimenter le podcast et cette ultime saison sera diffusée sur OCS Choc dès le lundi 21 février.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine.
Oui, c'est moi.
C'est un zombie.
Bah, votre zombie préféré surtout, merci Charline.
Mais vous n'êtes pas un zombie Antoine.
Mais si, je suis un zombie non. Picard même. Erwan Cario, dans la suite de Papa Podcast, je vous présenterai un super-héros Cosmo Flash. Mais avant ça, un petit peu de musique sexy, sushi, sex appeal.
Sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière.
Sexy Sushi, Sex Appeal, cet extrait de l'album au titre lucide, Caca, et c'est aussi l'album préféré de notre réalisateur Ghislain Fontanus. Vous écoutez Popo Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts, et que vous pouvez écouter à la radio et en podcast.
Oh! Oh! Mais voilà le moment que vous attendez tant. Mais oui, c'est Erwin Cario, la rencontre de Thomas Biassi, alias Cosmo Flash.
Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
Bonjour. C'est à vous, Cosmo.
Oui, bah, il y a un mois, je vous parlais des tendances podcast pour l'année 2022. Et cette semaine, l'actualité a quelque peu rattrapé les sujets dont je vous avais parlé.
Priorité au direct, comme on dit sur BFME.
Sur
BFME.
Certains de nos auditeurs et auditrices sont probablement déjà au courant, mais pour remettre les pendules à l'heure, si ce n'est pas le cas, je vous fais un petit topo. Lundi 24 janvier, Neil Young menace publiquement Spotify de retirer sa musique de leur plateforme. Le musicien accuse le service de streaming de désinformation sur le Covid-19 en hébergeant le podcast The Joe Rogan Experience. Le mercredi suivant, il met sa menace à exécution et tous ses albums disparaissent de Spotify. Depuis, il a été suivi par Joni Mitchell et d'autres musiciens. Bref, ça va devenir un peu plus difficile de revivre le festival de Woodstock sur Spotify, surtout que la société n'a même pas bougé le petit doigt pour essayer de récupérer ses artistes.
Mais Cosmo, ce Joe Rogan, c'est qui ?
Alors Joe Rogan, je vous en ai déjà parlé très succinctement le mois dernier. C'est un commentateur de MMA qui est très populaire aux États-Unis. Il est aussi accessoirement l'animateur du plus gros podcast du monde avec des millions d'auditeurs et de téléchargements chaque mois.
Zéro tracas, zéro blabla. Donc.
Ah bah alors, ça vous fait rire, mais des zéros, là, il y en a beaucoup. En 2021, Spotify s'arroge l'exclusivité de sa diffusion grâce à un accord estimé à plus de 100 millions de dollars.
Joe Rogan Podcast, check it out.
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day.
Cheers.
Cheers.
Hey. Must be Canadian week. Two Canadians in a row.
Alors en fond, c'est un extrait du dernier épisode de Joe Rogan Experience. La forme est très simple, c'est une discussion donc entre Joe Rogan et son invité. Et ça dure en général entre 2 voire 4 heures parfois pour les épisodes les plus longs. Donc c'est plutôt sportif comme écoute. Hein. Mais le seul problème, c'est que depuis le début de la pandémie, Rogan est accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et de faire la promotion de traitements alternatifs contre le coronavirus en lieu et place du vaccin.
Et pourquoi vous nous parlez de ça aujourd'hui, Cosmo ?
Eh bien, en fait, cette histoire m'a beaucoup intéressé pour deux raisons. D'abord parce que cela marque un tournant décisif pour Spotify. Désormais, ce n'est plus seulement un service de streaming, de musique, mais aussi de podcast. Ces derniers sont devenus si importants que la société est prête à compromettre ses relations avec le monde de la musique pour assurer le succès de sa stratégie autour des podcasts. Et le choix est logique pour eux. La musique rapporte peu ou rien la plateforme, tandis que le prix d'un encart publicitaire dans l'émission de Rogan se négocie à partir $1 million tout de même. Et Spotify ne peut pas non plus se mettre à dos les 11 millions d'auditeurs par épisode de Joe Rogan, alors que seulement 6 millions de personnes écoutent Neil Young chaque mois sur la plateforme.
Et la deuxième raison ?
Eh bien, ce qui est plus intéressant encore pour moi, c'est ce que cette affaire révèle sur la modération dans les podcasts. C'est peut-être le premier cas de modération de l'histoire de ce secteur. Facebook, Twitter, Instagram, par exemple, ont recours à de la modération automatique avec des algorithmes pour prendre la décision de dépublier ou pas un contenu. Mais Spotify ne peut pas vraiment mettre ça en place sur des contenus audio. Il faudrait retranscrire tout le contenu pour qu'il puisse être lu par des humains ou des algorithmes. Et cela demande des ressources encore bien trop importantes.
Et surtout quand le podcast dure 4 heures, non ?
Ouais, exactement. Et puis il semblerait que Spotify ne considère tout simplement pas avoir une responsabilité éditoriale autour des podcasts. Et ça, c'est Daniel Ek, le PDG de l'entreprise, qui l'explique dans le podcast du média Axios.
Joe Rogan is just one out of 8 million creators that we have on the platform.
But the best paid of all of those.
Sure, but we have a lot of really well-paid rappers on Spotify too that make tens of millions of dollars, if not more, each year from Spotify, and we don't dictate what they're putting in their songs either.
Et qu'est-ce qu'il dit ?
Alors certes, donc c'est ce qu'il nous dit, hein. Certes, Joe Rogan est le podcasteur le mieux rémunéré de la plateforme, Il y a aussi des rappeurs qui génèrent des millions de dollars sur Spotify et on ne leur dit pas ce qu'ils doivent écrire dans leurs chansons. Donc c'est un argument qui est un peu difficile alors que le service de streaming est quand même hébergeur, éditeur et diffuseur du podcast. Mais ça, c'était en juillet 2021. En début de semaine, Spotify a annoncé la mise en place d'un lien d'information sur le Covid-19 qui viendra en dessous de chaque podcast sur le sujet de la pandémie. Affaire à suivre donc, mais c'est déjà un premier pas vers une forme de modération.
Affaire à suivre donc, merci Cosmo Flash, ça y est, il s'est déjà envolé, toutes les feuilles sont bonnes avec lui, merci Cosmo.
Il est parti faire la modération sous nos podcasts à nous.
Oui, il est parti. Erwan Cario, dans un instant, ce sera à vous de nous conseiller un podcast, et comme je suis d'excellente humeur aujourd'hui, je vous laisse le temps de réfléchir pendant le morceau qui suit, c'est Led Zeppelin, Rock'n'Roll. Led Zeppelin, rock'n'roll, et comme je dis toujours, ça fait du bien par où ça casse. Sur France Inter, pour terminer ce numéro de Pop-up Podcast, en compagnie de notre podcasteur Erwan Cario. Erwan, c'est à vous de nous conseiller un podcast. Alors pourquoi ai-je un jingle qui veut gagner des millions, hein? Parce que cette séquence s'appelle le podcast, c'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami en référence au légendaire coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault. Cette explication est-elle trop longue? Eh bien je l'arrête ici. Et le podcast que vous voulez conseiller à un ami, c'est
Kif ta race, un podcast animé par Rokhaya Diallo et Grace Lee, produit par Binge Audio, un podcast qui s'intéresse aux thématiques liées au racisme.
Ouais, c'est un podcast qui en est à sa 4e saison. Je crois qu'ils en sont à 75, elles en sont à 75 ou 76 épisodes. J'avoue que je n'en rate pas un. À chaque fois que c'est diffusé, je télécharge, j'écoute ça. Et c'est un podcast qui est pour moi important, qui m'a appris énormément de choses. Notamment, alors on pouvait le savoir avant, mais c'est des démonstrations brillantes du fait que le racisme, c'est pas juste l'opinion dérangeante d'un oncle qui parle trop de Zemmour à table dans les repas de Noël. C'est un système. C'est quelque chose qui est un système d'oppression, un système de domination, et que l'antiracisme, c'est pas une posture, c'est un combat, et puis c'est aussi un apprentissage, surtout quand on n'est pas concerné, quand on n'est pas concerné par le racisme, il faut écouter les gens qui le sont, et puis Rokhaya Diallo et Grace Lee en parlent, c'est toujours dans une bonne humeur, c'est vraiment pas assommant, mais on apprend, on en ressort avec vraiment transformé, je trouve.
Alors dans l'extrait qui suit, on entend Mam Fatou Niang, qui est une maître de conférence franco-sénégalaise qui enseigne la littérature française et francophone à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh.
Je suis invitée à l'Assemblée nationale pour la projection de mon film Marianne Noire, qui est un documentaire sur les parcours de 7 femmes afro-françaises. Et là, devant la salle de projection, je tombe sur Banania, Tintin au Congo, à l'Assemblée nationale. Et je suis saisie. Et mon saisissement est doublé lorsque je me rends compte que cette toile-là, cette fresque-là, dans cet endroit-là, commémore l'abolition de l'esclavage. Donc avec mon ami, complice, l'écrivain et professeur Julien Siedo à Bryn Mawr, on lance cette pétition pour demander, non pas la destruction de l'œuvre, ça c'est important, mais son retrait de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, c'était une insulte aux victimes de l'esclavage, à leurs descendants, et une insulte à la France par rapport à elle-même, parce que la France ne peut pas commémorer l'esclavage, l'histoire de l'esclavage de cette façon.
C'est un extrait de l'épisode « L'art peut-il être raciste » du podcast « Kif ta race », recommandé chaudement, on l'aura compris, par Erwan Cario. Merci Erwan Cario.
Merci.
De nous avoir rendu visite. Silence, on joue. Votre podcast à vous est à retrouver chaque vendredi. Et la 500e, ce sera dimanche en clôture du festival Ready Players au Forum des Images à Paris, dans les Halles. Merci Charline.
Merci à vous.
À lundi. Et merci à toute l'équipe de Pop-Pop et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans l'émission Les Vedettes du film Les Vedettes, Grégoire Ludig et David Marsay du Palma Show. Mais avant, lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop-Pop. Pop, pop, pop.